Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Accord historique entre Israël, les Émirats arabes et le Bahreïn. Une grande cérémonie officialisant la normalisation de leurs relations est organisée à Washington. Nous allons sur place dans un instant. Violation organisée des droits humains dans les zones kurdes de Syrie. Un rapport de l'ONU dénonce la terreur qui règne à Afrin et Ras Alain et pointe la responsabilité de la Turquie. Précision de Nadine Epstein. Sur l'île de Lesbos en Grèce, 5 migrants soupçonnés d'avoir incendié le camp de Moria ont été arrêtés. L'Allemagne s'engage à accueillir 1500 réfugiés sans abri depuis la destruction du camp. Nous joindrons Nathalie Versieux à Berlin. Et puis des médecins prescrivent à des enfants autistes des antibiotiques ou des substances censées éliminer les métaux lourds. L'agence du médicament saisit la justice. Ces médicaments n'ont fait aucune preuve de leur efficacité et exposent ces enfants à des risques, explique l'ANSM. Thomas Larabi s'est penché sur ce dossier. Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn normalisent leurs relations. Seule l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994 avaient accepté de reconnaître Israël sans que soit réglée préalablement la question palestinienne. La signature de cet accord est donc un événement majeur. Elle se déroule à Washington où l'on retrouve tout de suite Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. La cérémonie de signature de l'accord de paix se déroule à la Maison-Blanche, Grégory, et en grande pompe.
Oui, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, comme en 79 avec Carter, comme en 94 avec Clinton, et ça dit beaucoup sans doute de l'importance que l'administration Trump accorde à cet événement historique, d'autant plus qu'on est à 7 semaines pile maintenant de la présidentielle américaine. Donc dans quelques minutes maintenant, Donald Trump va présider cette cérémonie de signature. Les drapeaux des trois pays ont été installés. Pour le symbole, il faudra évidemment regarder s'il y a une poignée de main entre le premier ministre israélien Netanyahou et les ministres des Affaires étrangères du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis. Sur le fond, maintenant, il va aussi falloir voir ce qu'il y a dans ce document et notamment comment est traitée la question palestinienne. L'accord qui sera signé tout à l'heure fera-t-il mention, par exemple, d'une solution à deux États ou pas?
Et on sait qu'il y a eu débat en Israël sur les contreparties liées à cet accord. Quels sont les engagements pris, Grégory? Comment cet accord va-t-il se concrétiser?
Alors, il y a déjà eu des choses concrètes. Par exemple, ce premier vol commercial fin août entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Une délégation américaine se trouvait à bord de l'appareil de la compagnie El Al. Il va y avoir aussi l'ouverture de relations diplomatiques entre ces pays, avec peut-être l'ouverture d'ambassades d'ici 3 à 5 mois. Il va falloir regarder le calendrier. Et puis, du point de vue américain, Donald Trump laisse entendre aujourd'hui que ça ouvre aussi la voie à la vente de matériel militaire aux Émirats, et notamment les avions de chasse F-35. Je n'ai aucun problème avec ça. Là, a dit Trump, interrogé ce matin sur Fox News. Voici quelques-unes des concrétisations de la signature de cet accord de normalisation qui sera donc signé et paraphé tout à l'heure, dans quelques minutes, à la Maison Blanche.
Grégory Phillips en direct de Washington. Et ces accords semblent donc relégués en arrière-plan la question palestinienne, d'où la colère en Cisjordanie et dans la bande de Gaza où sont organisées des manifestations. Les Palestiniens dénoncent un coup de poignard dans le dos. L'OMC donne raison à la Chine face aux États-Unis. Les taxes douanières punitives imposées à Pékin sont contraires aux règles du commerce international, indique l'Organisation mondiale du commerce. Elle invite les États-Unis à revoir leur copie. Réponse de l'administration Trump, l'OMC est totalement inadéquate pour mettre fin aux pratiques commerciales déloyales de la Chine. Un rapport des Nations Unies l'affirme, il y a eu des exactions systématiques en Syrie dans les régions sous contrôle turc. Les enquêteurs de la Commission indépendante internationale sur la Syrie ont constaté des exactions similaires à Afrin et Ras al-Ain, deux enclaves kurdes passées sous la domination des forces armées turques. Et le rapport mentionne des pillages systématiques et le recours au viol comme arme de guerre, Nadine Epstein.
La situation actuelle ne peut durer, déplore le président de la commission onusienne, Paolo Sergio Pinheiro, qui reconnaît que le cessez-le-feu conclu en mars par la Russie et la Turquie sur Idlib tient. Pour autant, chaque jour des Syriens sont tués et l'ONU de détailler de janvier à fin juin, il y a eu 45 disparitions forcées, 13 cas de torture et une vingtaine de décès de détenus. Les enquêteurs parlent de possibles crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis par le gouvernement syrien, des djihadistes et des rebelles de l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie. Ankara, qui occupe le terrain, est pointé du doigt par l'ONU qui lui demande de faire davantage pour faire régner l'ordre et cesser les exactions contre les Kurdes. Les enquêteurs notent ainsi des pillages systématiques menés par les supplétifs syriens d'Ankara, des confiscations de propriétés, des détentions arbitraires, le déplacement forcé de familles kurdes, des meurtres, des menaces, du racket, des enlèvements, des tortures et des détentions abusives. Les forces démocratiques syriennes, leurs composantes armées, sont accusées de pratiques inhumaines. Elles retiennent depuis de nombreux mois des milliers d'individus soupçonnés d'être associés à l'État islamique. En plus de 9 ans de conflit, les violences ont fait près de 390 000 victimes selon l'ONU.
Nadine Epstein. 6 jours après l'incendie du camp de réfugiés de Moria sur l'île grecque de Lesbos, 5 migrants ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu au camp et un 6e suspect est en fuite. Des habitants de Lesbos manifestent cet après-midi pour réclamer l'éloignement des réfugiés, toujours parqués sur l'île mais désormais sans abri. Le président du Conseil européen arrive justement à Lesbos. Charles Michel appelle les pays membres de l'Union européenne à être mobilisés pour davantage de convergence sur l'accueil de réfugiés, le droit d'asile et la politique de retour. Aujourd'hui, l'Allemagne a indiqué qu'elle accueillerait 1500 réfugiés du camp de Moria, en plus des 100 à 150 déjà annoncés, Nathalie Versieux.
Des femmes, des enfants, tous ayant reçu le statut de réfugiés de la part des autorités grecques, tel sera le profil des quelques 1500 migrants que l'Allemagne s'apprête à accueillir pour des raisons humanitaires. Ces 1500 personnes seront accueillies en Allemagne, en plus des mineurs isolés que Berlin s'était au préalable engagé à recevoir avec Paris. Jusqu'ici, les autorités allemandes avaient insisté sur la nécessité de trouver une solution européenne à la question migratoire. Question en effet pour Angela Merkel de risquer une flambée de l'extrême droite dans le pays en ouvrant la porte à une nouvelle vague incontrôlée comme en 2015. Un dilemme pour la chancelière qui doit aussi faire face à l'activisme des partis de gauche, des ONG et d'une partie de la société civile qui réclame un geste humanitaire. Une nouvelle manifestation avec pour slogan « Nous avons de la place » doit avoir lieu à Berlin dimanche, tandis que plusieurs villes et Länder demandent au gouvernement de faire plus pour les réfugiés de Lesbos.
Nathalie Versieux à Berlin. Reporters sans frontières dénonce une décision absurde et arbitraire et plusieurs villes françaises afficheront ce soir des bâches de soutien à Khaled Drareni. Ce journaliste algérien de 40 ans est condamné en appel à 2 ans d'emprisonnement. Il avait été arrêté en mars pour avoir couvert une manifestation étudiante. Khaled Drareni fait partie des dizaines de citoyens algériens traduits en justice pour leur participation au mouvement de contestation du Hirak. Il est devenu ces dernières semaines un symbole de la liberté de la presse dans son pays. Écoutez son avocate Sadat Feta.
Nous considérons que cette condamnation exemplaire constitue une atteinte à la liberté de la presse, la liberté d'expression et également au droit du peuple algérien d'être informé de tout ce qui se passe dans le pays. Nous sommes arrivés à une période où l'heure est vraiment très grave concernant les droits humains en Algérie et concernant les restrictions extraordinaires concernant les libertés fondamentales, malgré le fait que ces dernières sont consacrées par la loi fondamentale du pays qui est la Constitution. C'est la preuve sine qua non que le problème ne réside pas dans le changement, dans la révision ad vitam aeternam du texte fondamental du pays, mais le fait est dans la construction réelle d'un état de droit et on est encore bien loin.
L'avocate du reporter algérien Khaled Drareni. L'ancien président malien Moussa Traoré est décédé. Il avait dirigé le Mali de 1968 à 1991 avant d'être renversé par un coup d'état. Moussa Traoré avait 83 ans. L'agence du médicament saisit la justice. Elle a signalé au procureur de la République le cas de médecins prescrivant à des enfants autistes des antibiotiques ou des substances censées éliminer les métaux lourds. Des traitements dont l'efficacité n'est absolument pas prouvée et avec des effets secondaires bien connus. Bonsoir Thomas Larabi.
Bonsoir.
Près de 5000 enfants pourraient être concernés.
Oui, c'est le chiffre avancé par certaines associations, parmi elles SOS Autisme France. Sa présidente Olivia Catan est elle-même maman d'un enfant atteint de troubles autistiques. Elle avait lancé l'alerte il y a un an déjà.
J'ai découvert en effet que ces médecins donnaient toutes ces substances et certains médicaments à des enfants autistes. Plus en plus de médecins utilisent ce protocole et qui vont même plus loin en y ajoutant en plus leurs petites pattes. Par exemple, un médicament qui est contre la toxicomanie et l'alcoolisme qui donne à des enfants autistes de 14 ans. Donc, on peut pas tout essayer sur ces enfants. Enfin, c'est pas des cobayes, c'est pas des rats de laboratoire, les enfants autistes.
Avec des effets secondaires connus en cas de prise longue durée, troubles digestifs, cardiovasculaires, cutanés, mais aussi une antibiorésistance, c'est-à-dire un risque que les antibiotiques n'agissent plus par la suite sur ces enfants en cas d'infection. Alors aujourd'hui, avec l'agence du médicament qui monte au créneau, Olivia Catan espère lancer un message aux familles concernées.
Il y a des parents qui disaient « oui, mais il faut nous laisser le droit d'essayer ». Certes, mais il faut quand même un protocole. On peut pas essayer tout et n'importe quoi. Alors après, il y a d'autres parents qui sont pas informés, qui croient en la parole de médecins, pour certains qui sont plus que réputés. Évidemment, ils se font avoir. Mais à un moment donné, voilà, on peut pas tout faire avec nos enfants autistes, même si on est en souffrance. Bien sûr qu'il y a des parents victimes, mais il faut que les parents s'informent. Et puis surtout, au-delà de leur désespoir, respectent évidemment le droit de leurs enfants. Moi aussi, des fois, les troubles de mon fils m'envahissent. J'aimerais lui venir en aide. Alors je fais ce que je peux, mais je prends pas mon fils pour un cobaye. Et donc je vais pas lui essayer tout un tas de molécules pour voir si ça marche.
Son association SOS Autisme va également porter plainte. Une cinquantaine de médecins seraient concernés.
Thomas Larabi, l'explosion de la rue de Trévise l'an dernier aurait-elle été évitée si la mairie et le syndic de copropriété avaient été plus vigilants? La ville de Paris et le syndic sont mis en examen. La ville pour ne pas avoir recherché la cause de l'affaissement du trottoir devant l'immeuble. Le syndic pour ne pas avoir réparé les fuites d'eau qui ont aggravé l'instabilité du sol jusqu'à la rupture d'une canalisation de gaz. L'explosion rue de Trévise à Paris avait fait 4 morts et 66 blessés le 12 janvier 2019, ainsi que 400 sinistrés. Pas de changement de calendrier pour la 5G. Les enchères pour attribuer les premières fréquences aux opérateurs auront lieu dans le mois en vue d'une activation à la fin de l'année. De plus en plus d'ONG, citoyens et élus réclamaient un moratoire pour statuer collectivement sur les enjeux d'un tel déploiement. La 5G, c'est le tournant de l'innovation, leur a répondu Emmanuel Macron. Et le chef de l'État a ironisé sur ceux qui préféreraient le modèle Amish et le retour de la lampe à huile, Catherine Pétillon.
En renvoyant par une formule tout débat sur la 5G à une forme d'obscurantisme, Emmanuel Macron fait un choix paradoxal. Au moment même où le sujet arrive à l'agenda des organisations politiques, le président le dépolitise en fermant la discussion. L'échéance des enchères met pourtant en lumière les divergences profondes autour de cette technologie et les arguments, autrement plus denses qu'une référence à la lampe à huile, se déployant de part et d'autre depuis des années. D'abord, sur les aspects techniques et économiques. Les industriels, comme l'exécutif, mettent en avant la rapidité et l'énorme capacité promise par la 5G. Afin d'absorber un fort trafic de données. Ces retombées industrielles sont donc potentiellement gigantesques. On la trouvera dans des secteurs comme l'énergie, la chirurgie à distance ou encore la voiture autonome. Autant dire que son rôle sera structurant dans l'économie. À l'inverse, d'autres s'interrogent sur la nécessité de développer tous ces nouveaux services et objets connectés, et cela alors même que les usages de contrôle et de surveillance, les fuites de données personnelles ou encore la domination de ces marchés par les géants du numérique sont par ailleurs combattus. Autres inconvénients économiques, l'obsolescence programmée pourrait être plus rapide et les coûts de réseau plus importants. L'autre grand point de fracture concerne les effets sur la santé, avec l'augmentation des ondes, et surtout sur l'environnement. On sait que la 5G augmentera la consommation d'énergie des réseaux et le besoin de données, mais la balance coût-avantage ne fait pas consensus. Certains estiment que la 5G permettrait en même temps à certains secteurs de limiter leur empreinte écologique, par exemple en réduisant des besoins de transport. Ce qui est nouveau, est-il nécessaire? Limiter le débat sur la 5G à un simple pour ou contre l'innovation serait en tout cas nier à quel point les choix technologiques sont structurants et profondément politiques.
Barbara Pompili partage l'appel du mouvement des coquelicots. La ministre de la Transition écologique a signé l'appel des coquelicots pour l'interdiction des pesticides de synthèse, une pétition qui a récolté plus d'un million de signatures. Les candidats à la reprise de l'enseigne Bio C'est Bon avaient jusqu'à aujourd'hui pour se faire connaître. Selon nos informations, le groupe Carrefour et Biocoop ont déposé une offre. Également sur les rangs, le groupe familial Zoari, actionnaire de Picard. Le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer dans un mois, mais déjà, des actionnaires individuels se manifestent. Ces épargnants ont investi des sommes importantes dans l'entreprise et ils ne veulent pas être oubliés par les futurs repreneurs, Anne-Laure Jumet.
Oui, et on ne parle pas de quelques personnes isolées, mais de plus de 2800 personnes, profession libérale. Libérales, commerçants, agriculteurs, retraités, des conseillers en gestion de patrimoine leur ont vendu des placements réputés très intéressants avec des rendements de 6-7% et l'assurance d'être remboursé au bout de 2 ou 5 ans dans un secteur en plus porteur, le bio. Au total, ces épargnants ont investi 114 millions d'euros dans des sociétés investissant elles-mêmes dans les murs et dans les fonds de commerce de Bio C'est Bon. Et aujourd'hui, effectivement, ils craignent de tout perdre, comme l'explique leur avocat Maître Germain.
On est sûr et certain que les repreneurs n'achèteront que l'actif et ne reprendront pas le passif. Donc ils ne rembourseront ni les 7% qui avaient été promis et qui n'auraient pas été versés, ni les sommes investies en capital. Donc ça veut dire qu'on a 2800 actionnaires, petits porteurs, qui depuis la constitution du groupe ont contribué au développement Bio C'est Bon, qui vont être laissés complètement sur le carreau et qui sont insusceptibles de recouvrer le moindre euro de tout ce qu'ils ont investi, en dépit des promesses qui leur avaient été faites.
Soulignons qu'en 2018, l'autorité des marchés financiers s'était penchée sur ces placements, estimant que les investisseurs n'étaient pas assez informés des risques. L'AMF avait d'ailleurs signalé aux propriétaires de Biocébon, la foncière immobilière Marne et Finance, ces lacunes. Mais aujourd'hui, l'association de défense des investisseurs de Biocébon a les yeux tournés vers l'avenir et entend alerter les repreneurs et le tribunal pour qu'ils prennent en compte les intérêts de ces petits actionnaires. Si tel n'était pas le cas, elle n'hésiterait pas, dit-elle, à aller en justice.
Rentrée parlementaire sous le signe du Covid, alors que la Gironde, les Bouches-du-Rhône et la Guadeloupe sont contraintes de renforcer les mesures sanitaires pour faire face à la recrudescence de l'épidémie, le Premier ministre a saisi l'occasion des questions au gouvernement pour appeler à la mobilisation et à la responsabilisation de tous, Pierre Neveu.
En réponse aux critiques sur la cohérence des mesures décidées par le gouvernement qui laisse plus de marge aux préfets, et alors que plusieurs indicateurs sanitaires continuent de se dégrader, le Premier ministre explique « l'État ne peut pas tout décider depuis Paris ». C'est pourquoi il a demandé aux préfets de prendre des mesures appropriées, des mesures prises en concertation avec les élus locaux, comme cela a pu être décidé hier à Marseille et à Bordeaux, en annulant par exemple des manifestations et en contrôlant l'activité des bars et restaurants. Jean Castex revendique une méthode d'adaptation. Au cas par cas, il y a, dit-il, des critères nationaux, mais des applications locales. La priorité du gouvernement, c'est le maintien de l'activité dans le respect des protocoles sanitaires, avec une réponse qui doit s'adapter au territoire, car l'aggravation n'est pas partout la même. Alors, pour encadrer ces dispositions nationales et pour faire face à un possible rebond de l'épidémie, un nouveau texte de loi sera présenté demain matin au Conseil des ministres, un projet de loi qui prolongera de 6 mois les restrictions de rassemblement et de déplacement.
Pierre Neveu. Après 6 mois de fermeture pour cause d'épidémie de coronavirus, les spectacles reprennent doucement et sous la contrainte des consignes sanitaires. Le département du Nord fait partie des zones rouges. Les directeurs et programmateurs de théâtre et de salles de concert espèrent que cela ne compromettra pas trop la reprise. Levé de rideau dans la métropole lilloise avec Cécile Bidot.
Sur la façade du Colisée de Roubaix, qu'on appelle l'Olympia du Nord, de grandes lettres rouges annoncent « hâte d'être ensemble ». Mais dans quelques jours, elles seront remplacées par le nom des tout premiers artistes à monter sur scène en 6 mois, Mozart Group, un quatuor musical et humoristique. Programmé le 10 mars, le spectacle a été reporté. Il fera la réouverture du Colisée le 21 septembre. Les règles sont strictes, tout le monde est masqué, sauf les artistes. Dans la salle, un siège sépare les groupes de spectateurs. Le directeur du Colisée, Bertrand Millet.
Notre raison d'être à nous, c'est d'accueillir du public, d'accueillir des artistes, de faire vibrer cet endroit. Ça a été très très triste et du coup, ça sera une grande émotion et un grand bonheur. Et vraiment, j'attends ça avec une énorme impatience.
La réservation des billets pour la 60aine de spectacles de cette saison vient de commencer. Le logiciel met automatiquement le siège vide entre les groupes. La salle devrait être remplie à 60 ou 70%. Le casse-tête est encore plus grand pour les salles de concert où on est habituellement debout. C'est le cas du Grand Mix à Tourcoing qui se résout à installer des chaises. Pas facile d'imposer ça à un public adepte du rock qui bouge. Boris Collin est le directeur du Grand Mix.
Il y a un groupe de métal, donc évidemment, quand on pense métal, on ne peut pas penser autrement que concert debout. Si tout le monde est d'accord pour jouer le jeu, autant le faire.
Le tout premier concert, ce sera samedi 19 septembre et ensuite, c'est une navigation à vue pour la programmation, réduite de 2/3. Réduite aussi la jauge. Pour respecter les règles de distance, pas plus de 200 personnes dans la grande salle qui en compte normalement 600. Économiquement, cette reprise ne sera donc pas rentable, mais pour Boris Collin, elle est indispensable.
Psychologiquement, ça fait vraiment du bien d'envisager la reprise, même si elle est modeste. Au moins, elle est là, elle est palpable, on voit un peu de petite lumière au bout du tunnel, on en avait vraiment besoin. Et puis surtout, mettre des artistes sur scène, faire en sorte que les techniciens bossent. Reprendre, c'est aussi remettre de l'économie, hein.
Et il y a des signes qui ne trompent pas. On pousse la porte du club, la petite salle du Grand Mix. Le musicien Mathieu Arlot, de son nom de scène Chamberlain, est en résidence. Il jouera en live le 17 octobre.
J'attends de voir parce que c'est vrai que des salles denses où les gens sont debout avec un verre et des salles exclusivement assises où les gens sont masqués. Je ne sais pas encore dire quel est l'impact de la présence humaine.
Une partie des 14 salariés du Grand Mix de Tourcoing est encore en chômage partiel aujourd'hui.
Cécile Bideau à Lille. La foire de Paris et la foire d'automne n'auront pas lieu cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Elles sont reportées en 2021. Encore une belle journée demain, mais les nuages seront plus présents, notamment sur l'est et le centre, avec quelques averses. Des orages pourront éclater sur les Alpes. Les températures resteront chaudes, de 15 à 22 degrés le matin. L'après-midi, 22 près de la Manche, 30 à Nice, 35 à Paris. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.